grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Ce matin, je vous propose de poser toutes vos questions sur le climat et sur l'effondrement au militant écologiste Cyril Dion, co-réalisateur du documentaire Demain, et au chercheur Pablo Servigne, co-auteur de Comment tout peut s'effondrer. Nous ferons notamment le point sur la plainte déposée contre l'État pour inaction climatique, sur le dernier rapport de l'Organisation météorologique mondiale qui constate une accélération du réchauffement de la planète. Et puis, nous vous expliquerons de façon claire et pédagogique ce qu'est l'effondrement, une théorie qui fait de plus en plus d'adeptes. L'effondrement, ce processus où les besoins de base comme l'eau, l'alimentation, le logement, l'habillement, l'énergie ne seront plus fournis à un coût raisonnable à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Nous verrons si ce processus est vraiment irréversible et surtout comment l'affronter. Toutes vos questions à Cyril Dion et Pablo Servigne au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
Qui cause un fort réchauffement climatique dans le studio à cause de son intelligence en fusion.
Oh là
et
là,
donc,
écoutez,
vous avez des questions à poser, hein, nos invités?
Bah oui, j'aurais plein de questions à poser avec mon esprit d'escalier en matière recyclée, évidemment.
À tout à l'heure. Et vous retrouverez Éric Libio, notre ours pas du tout en voie de disparition, vendredi prochain. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Bonjour Cyril Dion.
Bonjour Ali.
Vous êtes écrivain, militant écologiste, co-réalisateur du documentaire Demain. Vous avez publié chez Actes Sud, Petit manuel de résistance contemporaine. Et vous êtes l'un des porte-voix de l'affaire du siècle, le regroupement de quatre associations qui a déposé une plainte contre l'État français pour inaction climatique. Bonjour Pablo Servigne.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur agronome et docteur en biologie, spécialiste des questions d'effondrement. Vous avez notamment co-écrit au Seuil Comment tout peut s'effondrer. Et vous lancez un nouveau trimestriel en kiosque, Yggdrasil, qui tire son nom de l'arbre monde dans la mythologie nordique,
c'est ça Yggdrasil.
On verra ça tout à l'heure. Alors Cyril Dion, avant de s'intéresser à la plainte contre l'État français pour inaction climatique, je ne sais pas si vous avez lu le dernier rapport de l'Organisation météorologique mondiale qui indique que ces quatre dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées à l'échelle mondiale. Le Figaro de ce matin nous rappelle que 2018 se place dans le top 10 des années les plus chaudes depuis 1910 sur tous les continents, à l'exception de l'Amérique du Nord.
Oui, je confirme. Mais non, on est ce rapport dit qu'on est déjà à 1 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. La NASA dit même 1,1. Il y a même des rapports, j'ai vu passer un rapport dans Le Monde qui faisait une étude des températures qui dit qu'on, sur certaines années, on est même autour de 1,4. Donc l'idée, en tout cas, qu'on pourrait rester en dessous d'1,5 d'ici la fin du siècle, paraît hautement fantaisiste. C'est-à-dire que si on suit la trajectoire qu'on a déjà tracée là, et même si on l'amoindrit, il y a de fortes chances que ce seuil-là soit dépassé plutôt autour de 2030-2035, et donc que ça puisse provoquer des phénomènes d'emballement.
Alors le rapport de l'Organisation météorologique mondiale nous rappelle que les catastrophes climatiques ont affecté 62 millions de personnes à cause de vagues de canicules ou de catastrophes liées à l'eau. Sur 17 millions de personnes déplacées, 2 millions le sont en raison d'événements directement liés à la météo. Et près de 821 millions de personnes sont sous-alimentées à cause de la sécheresse. Dernier chiffre, et j'arrête là, le réchauffement climatique contribue à une diminution de 1 à 2% de l'oxygène marin depuis le siècle dernier, et c'est bien sûr une catastrophe pour la biodiversité pour les hommes. Pablo Servigne, ça sert à quelque chose d'accabler le grand public de ce genre de chiffres catastrophistes?
Je pense que oui, c'est pas accablé, c'est informé. Enfin, notre tentative de faire un best-of des mauvaises nouvelles du siècle, c'était plutôt une tentative de lucidité, pas du tout de pessimisme ni d'optimisme d'ailleurs. Je pense que ce sont les faits qui font peur. C'est pas nous les catastrophistes ou les lanceurs d'alerte ou les scientifiques, ce sont les faits. Quand vous avez un incendie chez vous dans votre immeuble, si votre voisin vient, évidemment, il y aura de la peur, il y aura une alerte. La peur, elle sert à alerter. Et il doit parler du feu s'il veut vous Vous parlez d'un incendie, il va parler d'écrire le feu, vous voyez, c'est une tentative de lucidité. Après, c'est vrai que tous ces chiffres font peur, et ça c'est une question, donc on avait d'ailleurs parlé dans une précédente émission sur comment accueillir tout ça, comment voir aussi que ça provoque du désespoir, de la tristesse, de la colère, on voit dans la rue là actuellement, et tout un tas de... Et puis de la joie et de l'excitation, parce que pour les jeunes générations qui sont dans la rue, ils se disent enfin on va pouvoir refaire quelque chose de nouveau, repartir de nouvelles bases peut-être, enfin en tout cas déployer une imagination. Il y a une complexité à la fois dans les émotions et dans la raison. Donc nous on a fait une tentative avec la collapsologie d'essayer de faire une synthèse sur la raison, le logos, comment la science peut appréhender toutes ces questions, mais la science en elle-même n'est pas capable de traiter toutes ces questions, les questions éthiques, la question émotionnelle, spirituelle, artistique. Peut-être on en parlera aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on avait appelé la collapsosophie, donc une certaine sagesse par rapport à toutes ces questions. Mais effectivement, les chiffres, au début, il y a une phase boulimique, j'ai remarqué, chez les gens qui s'intéressent à cette question. On va sur YouTube, on voit plein d'articles, etc. Et une phase boulimique d'acquisition des connaissances. Et à un moment, on sature. Ouais, c'est bon, j'ai trop de chiffres. Comment on fait pour vivre avec, pour passer à autre chose, pour passer à l'action? Et c'est vrai que la peur pour passer à l'action n'est pas terrible. Donc, il faut réfléchir à comment on mobilise le courage, par exemple, etc.
Bonsoir. On a beaucoup réfléchi ces derniers temps. Ouais. Et on va attaquer tout simplement l'État français en justice.
Pour inaction face au dérèglement climatique.
On est maintenant des millions à voir que le climat se réchauffe, se dérègle.
À voir les sécheresses, les incendies, les tempêtes.
Les forêts, les animaux disparaître, que tout peut s'effondrer.
Car pour l'instant, nos présidents, ils parlent beaucoup.
Notre maison brûle.
Toutes les décisions publiques seront désormais arbitrées en intégrant leur coût pour le climat.
Le réchauffement annonce des conflits.
Make our planet great again.
Mais ils ne font pas grand-chose et nous, depuis toutes ces années, on leur met pas assez la pression.
Si on gagne, on aura un véritable moyen pour forcer nos dirigeants à agir.
L'enjeu est immense, c'est maintenant ou jamais.
Alors l'affaire du siècle, c'est bien sûr le climat. L'affaire du siècle, c'est le regroupement de 4 associations. Notre Affaire à tous, Greenpeace, Oxfam France et la Fondation pour la Nature et l'Homme, la Fondation Hulot. Alors pour vous, Cyril Dion, les conférences internationales sur le climat se succèdent et la France ne se donne pas les moyens de son ambition.
Non, la France respecte pas, à vrai dire, les engagements qu'elle a pris elle-même. Et elle respecte d'ailleurs même pas les engagements qu'elle a conduit à prendre avec 195 pays pour les accords de Paris. Si on voulait rester donc en dessous de ces 1,5 degrés, donc ce qui est l'objectif de l'accord de Paris, il faudrait qu'on diminue nos émissions de gaz à effet de serre de 3% chaque année. Et il se trouve que depuis 2015, l'augmentation a été plutôt de 3%. Chaque année. Donc on va dans l'autre sens. On a augmenté en gros de 6%, 6-7% depuis 2015. Il y a aussi des engagements de réduction de la consommation d'énergie, de développement des énergies renouvelables qui ont été pris dans des directives européennes qui ne sont pas tenues non plus. Donc le gouvernement se réfugie régulièrement derrière le fait que on n'émet pas beaucoup de CO2 parce que on a du nucléaire et le nucléaire c'est vraiment super génial. Et c'est se moquer du monde. Enfin, je veux dire, on a une ambition qui devrait être bien plus grande que ça.
Et on n'est pas les seuls. Il y a 16 pays seulement sur les 195
qui
ont fait passer des lois qui vont dans ce sens. C'est fou.
Alors, avant de déposer une plainte contre l'État français, vous avez recueilli l'appui massif des citoyens dans une pétition qui a rassemblé plus de 2 millions de personnes. Je crois que c'est la pétition la plus populaire dans l'histoire de notre pays. Vous avez été étonné par ce soulèvement massif citoyen?
Oui, on a été étonné que ça aille si vite parce qu'il y a plus d'un million de personnes qui ont signé en 2-3 jours, je crois. Et effectivement, la dernière pétition qui avait recueilli le plus de signatures, c'était la loi travail, 1,3 million. Et là, on est à 2,2 millions. En fait, c'est venu à la fois du fait que je pense que la conversation sur le climat change de façon générale. Elle change parce qu'on commence à en ressentir un certain nombre, on ressent un certain nombre d'effets de dérèglement climatique de façon plus tangible, notamment l'été dernier. Et parce que les médias se sont aussi beaucoup emparés du sujet, et merci de le faire encore ce matin, mais c'est vrai que ça change tout. C'est-à-dire que l'opinion publique se construit malgré tout autour d'une conversation qui a lieu dans les médias. Et puis après, on a essayé d'élaborer des stratégies. Moi, c'est vrai que j'avais réuni quelques ONG au mois d'octobre pour dire qu'il faudrait qu'on crée une espèce de lobby citoyen. On n'est pas suffisamment bien organisé, on n'a pas suffisamment d'influence sur la trajectoire du pays.
Et là, vous en avez ?
Et on s'est dit, aujourd'hui, on a à la fois des youtubeurs, à la fois des artistes, à la fois des ONG, à la fois des scientifiques qui sont prêts à s'engager ensemble. Si chacun d'entre nous porte le même message qu'on va chercher chacun nos communautés, ça peut vraiment faire la différence et effectivement, ça l'a fait.
Est-ce que ça c'est pas aussi le résultat de cette atroce chose, cette impuissance des gens quand ils disent « moi, je veux bien faire... » le tri des ordures, je veux bien moins me servir de ma voiture, je veux bien, mais de toute façon ça ne sert à rien, je ne suis qu'une goutte dans l'océan, si l'État ne fait rien, si les entreprises cessent de, si... Donc en fait, est-ce que ça soudainement, d'attaquer plus gros que soi, c'était important de dire mais mince, hein, faut arrêter qu'on me dise que c'est de ma faute, que c'est pas simplement moi avec mes... Bien sûr que ce sont les petits gestes de chacun, mais que ça c'est beaucoup plus gros que ça.
C'est important parce que on arrive à un moment où, étant donné les laps de temps qui nous restent, c'est-à-dire que les scientifiques nous disent que d'ici 2030, on va rentrer dans des phases extraordinairement critiques. Là, le dernier rapport du GIEC invite vraiment à faire des transformations radicales dans les 10 ans qui viennent. Dans les 10 ans qui viennent, si on attend que chacun puisse, par sa bonne volonté, trouver le moyen de se passer de sa voiture, n'utilise plus du tout de plastique, ça va aller infiniment moins vite que si on a...
Il faut légiférer, quoi.
Exactement. Mmh. C'est-à-dire, si demain, par exemple, on dit dans 2 ans, les voitures qui consomment plus de 2 litres au 100, c'est interdit. Dans 4 ans, ou dans 5 ans, les voitures thermiques, c'est interdit. On est obligé de structurellement trouver des solutions. Si on dit le plastique à usage unique, c'est totalement interdit, comme vient de le faire le Parlement européen, voire même, on arrête d'utiliser du plastique. Si vous recyclez pas, vous êtes hors la loi, ou au contraire, si vous recyclez, ça vous coûte moins cher, etc. Tout ça, c'est des mécanismes qui vont engager la société dans une transformation beaucoup plus rapide. Et puis, c'est très important de comprendre aussi, notamment sur la dimension des entreprises, on parle par exemple du recyclage, que les entreprises jouent un jeu extrêmement trouble avec ça.
Ambigu.
Ben oui, c'est-à-dire que on sait maintenant que, par exemple, les premières ONG de recyclage ont été créées par des entreprises qui fabriquaient elles-mêmes le plastique pour se débarrasser finalement de la responsabilité du packaging. C'est-à-dire qu'à l'époque, par exemple, où Coca-Cola faisait de la consigne, Coca-Cola avait la responsabilité de récupérer la bouteille, d'en faire quelque chose, ça lui coûtait de l'argent. Là, il s'est dit, le plastique, c'est plus léger, ça nous coûte moins cher à produire, ça nous coûte moins cher à transporter. Et ensuite, c'est le consommateur qui se débrouille avec ça. Et ensuite, on peut lui dire, on peut le montrer du doigt en disant, nous, on voudrait bien, évidemment, qu'il y ait moins de plastique dans l'océan, mais enfin, c'est les gens, vous comprenez, ils font n'importe quoi.
Alors, Cyrine Dion, cette plainte contre l'État pour inaction climatique, elle est inédite. Sur quel fondement juridique vous vous appuyez ?
L'idée, en fait, c'est de dire que l'État français a l'obligation de protéger sa population. Et que le changement climatique va mettre en danger un certain nombre de personnes, un certain nombre d'espèces aussi. Et qu'à ce titre-là, l'État fait preuve aujourd'hui de carence fautive, c'est-à-dire qu'il devrait mettre en œuvre les moyens de protéger la population de ce qui va se produire dans les années qui viennent et qui est bien documenté par les scientifiques. Et aujourd'hui, c'est pas le cas.
Alors certains estiment que les fondements juridiques sont très fragiles pour certains avocats. Le sujet est politique et ce n'est pas le rôle des juges administratifs de se prononcer.
En fait, ce qui est très intéressant, c'est que mettre le sujet sur le débat juridique, c'est le dépassionner d'une certaine façon, c'est sortir de l'idéologie. Ce que nous reproche un certain nombre de personnes qui sont ou climato-sceptiques ou qui nous traitent de Khmer Vert, de je ne sais quoi, comme Laurent Alexandre, pour ne pas le nommer, c'est justement de croire qu'il y a une espèce d'idéologie derrière tout ça et qu'on veut en fait détruire le monde ou je ne sais quoi. Bon. Quand on se met sur le terrain juridique, et bien justement, ça nous permet de regarder les règles du vivre ensemble. Ce qui est très intéressant pour les gens qui disent « mais c'est totalitaire, ce que vous voulez faire, c'est nous priver de nos libertés », c'est de transposer le sujet sur d'autres champs. C'est-à-dire, par exemple, si on regarde le code de la route, est-ce qu'on dit « le code de la route, c'est totalitaire ». Est-ce qu'on dit « mais c'est me priver de ma liberté individuelle de dire que je peux pas rouler à 140 km/h dans les rues de Paris ». Mais non, c'est parce qu'en fait, c'est dangereux. Ça met la vie des gens en danger. Donc à partir de ce moment-là, si on sait que le réchauffement climatique, le dérèglement climatique et l'effondrement des espèces, dont on parle pas suffisamment, mettent la vie des êtres humains en danger et des autres espèces en danger, on a le devoir de se doter de règles communes qui nous permettent de les protéger.
En cas de victoire juridique, comment contraindre l'État ? Et en cas de victoire, est-ce que ce sera aux citoyens de s'emparer de cette jurisprudence ?
En réalité, cette initiative a l'intention, enfin, fait en sorte de créer une mobilisation dès maintenant. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre qu'il y ait un jugement juridique. Le précédent sur lequel on se fonde, notamment l'association Urganda aux Pays-Bas, qui a remporté son procès en 2015, puis en appel en 2018, où la justice a donc condamné les Pays-Bas à réduire de 25% d'ici 2020 leurs émissions, et qui a conduit en réalité le gouvernement, qui est un gouvernement de coalition, à élaborer là une des lois qui est les plus ambitieuses en Europe sur le sujet. Nous a montré que ça peut prendre plusieurs années. Donc notre objectif là, c'est plutôt de tenir le crachoir. Mmh. C'est-à-dire c'est d'occuper la conversation, d'occuper l'espace public. Ça se passe avec les jeunes, ça se passe avec ce manifeste là qui s'appelle « Comment nous allons sauver le monde » là, qui a été lancé par notre affaire à tous, qui avait été à l'initiative de ce projet. Parce que finalement, on a un débat, on a une victoire culturelle à remporter.
Pablo Servigne, votre regard sur cette plainte, du point de vue du spécialiste de l'effondrement, n'est-il pas trop tard ?
Il n'est jamais trop tard pour agir, mais c'est vrai qu'il est trop tard pour beaucoup de choses déjà. En fait, ce qui me marque, c'est qu'il y a une grande part symbolique, une force symbolique à cette pétition. Je trouve ça assez très français aussi, de vouloir, d'attendre de l'État des choses. Et je sais pas si on aurait eu la même puissance dans d'autres pays, mais c'est aussi le fait que l'été dernier, avec la démission de Nicolas Hulot et la canicule et le rapport spécial du GIEC, il y a eu comme une fissure dans l'imaginaire, j'ai l'impression, des Français. Les masques sont tombés, même Nicolas Hulot, le héros de l'écologie, il est allé en plein cœur du gouvernement avec un ministère puissant, il a pas réussi, il a démissionné. C'est comme si maintenant tout était bloqué, et on voit ça ressort de partout, à la fois dans ce levier juridique, on sait pas sûr que ça marche, mais au moins ça crée une mobilisation, mais dans la rue, il y a de la désobéissance civile. S'il y a de la violence, elle est aussi justifiée, parce qu'on nous écoute pas, il y a des verrous immenses qui font que tout est en train d'émerger.
La grève des jeunes, enfin, c'est quand même assez incroyable de voir que des lycéens se sont mobilisés et que ce qu'ils ont organisé le 15 mars, c'était la plus grande mobilisation pour le climat
depuis l'international,
qui ait jamais eu en fait dans le monde.
Mais justement, vous dites, donc Nicolas Hulot a dit je peux pas. Je peux pas, il a baissé les bras. Donc est-ce que c'est pas, pardon, mais absurde d'aller attaquer justement l'État français, puisque quelqu'un, un ministre même, a dit « je peux pas ». Est-ce qu'il faut pas attaquer d'autres pouvoirs, c'est-à-dire des gros pouvoirs industriels, ou est-ce qu'il faut pas attaquer par la bande, puisque même au sein de l'État, quelqu'un a dit « ah bah pas possible ».
C'est bien sûr, il faut attaquer dans tous les sens.
Non, mais oui, évidemment, il faut attaquer aussi ce qu'a fait par exemple la ville de Grenoble, qui est attaque totale. Là, il va y avoir le 19 avril une action contre la République des pollueurs, donc qui va être une grande action de désobéissance civile contre des entreprises qui sont les principaux pollueurs et les principaux destructeurs de l'environnement. Mais le fait d'attaquer l'État, en fait, c'est une façon aussi, l'État c'est nous aussi. C'est une façon de reprendre la responsabilité collective. Pourquoi est-ce que Nicolas Hulot n'a pas réussi à faire ce qu'il aurait voulu faire ou ce qu'il sait devoir faire ? Parce que le gouvernement et la ligne directrice du gouvernement n'allaient pas du tout dans ce sens-là. On est toujours dans un gouvernement qui cherche de la croissance, qui cherche à faire du profit économique, qui est toujours dans un modèle capitaliste, libéral, etc. Donc ce dont on a besoin, c'est collectivement de transformer la société, et donc pour ça, de transformer l'État, de transformer la politique, de transformer la démocratie, et donc on a besoin de tout le monde pour ça.
Pablo Servigne, allez-y, je vous coupe pas le cerveau, allez-y.
Ils sont en train de se montrer du doigt l'un l'autre. Non, toi, non.
Vas-y, allez-y, pardon.
Non, je vous voyais faire signe, c'est pour ça. Du coup, j'ai perdu le fil.
Bon, mais tant pis, vous direz ça après le disque. Vous pouvez poser toutes vos questions sur le climat et sur l'effondrement à Cyril Dion et Pablo Servigne au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Alexa Rivière et Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Bauve, et c'est réalisé par Stéphanie Texier. Je prends une voix là, la Marvin Gaye. Oh, oh, mercy, mercy me. Oh, things ain't what they used to be now. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be, oil wasted on the oceans and upon high seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be, radiation.
ocean, underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are alive. Mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand?
Cyril Dion, je vous laisse désannoncer avec votre voix très fip.
C'était Marvin Gaye. Merci, merci, Mi.
Tu vois, dans les films d'horreur, le mec qu'on n'écoute jamais qui dit aux autres « Eh les mecs, on devrait pas aller par là, sinon on va tous crever. »
Grand bien vous fasse.
Bah, c'est exactement ce que fait un écolo avec le reste du monde.
Sur France Inter.
10h29 et nous attendons vos questions sur le climat et sur l'effondrement à Cyril Dion et Pablo Servigne, 01 45 24 7000.
Il y a très longtemps que j'ai la conviction que notre civilisation court à sa perte.
1971. L'avenir de la civilisation industrielle était le sujet de cette émission présentée par Michel Pollack. Et certaines prédictions n'étaient pas très optimistes.
Je ne crois pas à la disparition de l'homme sur la Terre. Ce que je crois, c'est la disparition de l'homme technique sur la Terre. Parce que l'homme technique détruit la nature, empoisonne l'atmosphère, empoisonne les eaux.
Des catastrophes climatiques, mais aussi économiques, responsables de l'effondrement de la civilisation industrielle. Une théorie appelée aujourd'hui la collapsologie et qui émerge en France au début des années 70. À cette époque, la société de consommation est à son apogée, la crise pétrolière se dessine et l'épuisement des ressources commence à inquiéter.
C'est cet équilibre entre population, production, ressources, espace disponible qu'il faut trouver et trouver assez rapidement. Sinon, si nous ne faisons pas ça, nos fils, les prochaines générations devront payer notre imprévoyance et notre égoïsme.
Pablo Servigne, notre planète subit un tel saccage que l'écroulement, l'effondrement de nos sociétés thermo-industrielles est inéluctable.
Et bien parti, oui, je dirais. Ça fait 40 ans que j'entendais ces extraits, c'est fou, ça fait 40 ans que les scientifiques le disent. Dans les années 70, il y avait les crises pétrolières qui ont vraiment marqué les esprits. Il y a eu le rapport au Club de Rome en 72. Et en fait, dans les années 80 et 90, on a tout mis sous le tapis et c'est reparti sur la croissance. On a inventé le développement durable, ce concept un petit peu flou pour mettre tout le monde d'accord.
Pourquoi flou ?
Ben parce que développement, c'est quoi développement ? Et durable, ça veut dire quoi ? Quand on plonge dans les mots, tout le monde peut être d'accord un petit peu avec ça. Mais en attendant, c'est quoi une société soutenable ? Si on réfléchit un instant, ben c'est une société qui s'effondre pas. On est d'accord. Mais c'était possible si on démarrait, on mettait toute l'énergie de la société et l'intelligence dans les années 80. C'était encore possible d'atteindre un équilibre avec la biosphère. Seulement dans les années 80, on a continué. Dans les années 90, il y a eu l'invention de l'empreinte écologique. Ce concept, vous savez, qui dit qu'on consomme plus qu'une planète. Donc on a su, dès les années 90, que c'était pas la bonne trajectoire, qu'on avait franchi des limites et que c'était pas soutenable. On a continué à accélérer. Et jusqu'à 20, jusqu'à aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, au lieu de baisser de 3%, maintenant on augmente de 3% les émissions. On n'arrive pas, on est sur cette trajectoire. Et dans l'extrait, on disait c'est pour les générations futures. Nous, ce qu'on dit dans notre livre, c'est que c'est nous. C'était nous les générations futures. Maintenant, c'est les générations présentes. On dit nos enfants nous accuseront. Ben, c'est nous. On accuse. C'est nous les enfants et on accuse au tribunal, on accuse dans la rue.
Dans le processus de l'effondrement, les besoins de base ne seront plus assurés à une majorité de la population par les services de l'État. Des besoins de base comme l'eau, l'alimentation, le logement, l'énergie, la mobilité, la sécurité. Est-ce qu'on peut dire que l'effondrement ressemble plutôt à un cancer incurable plutôt qu'à une soudaine rupture d'anévrisme?
Alors ça peut être les deux. Je pense que c'est un mélange de cancer et d'anévrisme, des ruptures d'anévrisme. C'est, effectivement, c'est une bonne image. Je l'avais pas vue, mais il peut y avoir des ruptures rapides. Là, on parle dans comment dire. Il y a une biodiversité des ruptures possibles. On peut parler de la finance, d'effondrement de la biodiversité, le climat, c'est une autre temporalité, le géopolitique, etc. Il y a plein de problèmes qui nous arrivent dans tous les sens, avec des temporalités différentes. On peut avoir des ruptures d'anévrisme, par exemple, s'il y a une grande grève qui bloque les raffineries en 5 jours, en 6 jours, la France est à genoux, même peut-être l'Europe. S'il y a une centrale qui explose près d'un grand port, genre Rotterdam ou je sais pas, et qui bloque les principaux ports d'Europe avec des chaînes d'approvisionnement en flux tendu, des longues chaînes, etc. Ça va être très très problématique. Et après, il y a des grands problèmes de fond avec des grandes pollutions, des changements plus lents, progressifs, mais non moins toxiques. Je veux dire la diminution de l'oxygène dans les océans, l'acidification des océans, tout ça. C'est pas des chocs brutaux, c'est pas des ruptures d'anévrisme, mais c'est hyper grave aussi. Ça nous enlève la possibilité de continuer à vivre.
Quels seront les pays les plus concernés par l'effondrement ?
Alors il y en a déjà qui sont concernés. Je veux dire l'Australie qui subit des sécheresses hallucinantes, puis des pluies, des inondations. Il y a d'autres pays qui s'effondrent du fait d'une conjonction de facteurs humains et météorologiques. Je pense à la Syrie. Avec un régime que l'on connaît, qui a créé des conditions terribles au niveau politique. Mais par contre, le régime de Bachar el-Assad a subi 4 ans de sécheresse très grave dans les années 2010, du jamais vu dans la région, qui ont fait 1 million de déplacés. Et à côté, il y a eu 1 million d'Irakiens qui sont venus en Syrie. Et donc, on a des préconditions, comme si on accumulait du gaz dans une pièce. Et à un moment, il y a une étincelle qui arrive. Et bam, il y a tout qui explose d'un coup.
Beaucoup d'auditeurs nous demandent en substance pourquoi faudrait-il croire à ce scénario de l'effondrement de notre civilisation industrielle. Sur quoi vous basez-vous pour croire dans ce scénario catastrophe, Pablo Servigne?
Alors c'est une bonne question.
Certains vous reprochent même d'être une Cassandre, un oiseau de mauvais augure, très anxiogène.
Mais ça, j'accepte. Cassandre avait raison. Mais du coup, c'est une bonne question, la croyance, parce que moi, ma manière d'être, voilà, je suis scientifique, c'est ma manière de voir le monde et de partager. Donc on a fait une compilation scientifique. Et actuellement, la science, c'est un discours dans notre société qui est très écouté. Peut-être même pas assez, mais bon. Et donc, ça a impacté les gens. Les gens se sont mis à savoir. Ah, on sait. Mais finalement, il y a beaucoup de gens qui savent sur le climat, enfin, beaucoup de gens savent, mais ça ne percute pas. On a l'impression que ça ne vient pas. C'est dans la tête, mais ça ne vient pas dans le corps, dans le cœur, dans le...
Merde,
ça va, c'est pour moi. Voilà. Et c'est ce que dit le philosophe Jean-Pierre Dupuis, qui nous a beaucoup influencé sur le catastrophisme éclairé. Nous ne croyons pas ce que nous savons. Et donc, on a vraiment travaillé la question des émotions, la question psychologique, la question éthique, pour voir, à un moment, il faut prendre l'action à bras le corps. Et à bras le corps, le cœur, c'est nous, ça nous concerne, nous.
Cyril Dion.
Juste pour compléter ce que dit Pablo, nous, quand on a fait Demain, on s'est appuyé sur une étude qui était parue dans la revue Nature, qui était une étude sur le point de bascule, qui était déjà une compilation de plein d'autres études, où les deux scientifiques qu'on a interviewés d'ailleurs au début du film, avec 22 autres chercheurs du monde entier, avaient été recueillir des infos sur l'érosion des sols, la déforestation, la pollution des eaux, le changement climatique, les migrations. Et ils ont essayé de mettre tous ces facteurs bout à bout pour regarder ce que ça donnait comme trajectoire. Et eux, ils disent la même chose. C'est-à-dire, on pourrait arriver à une espèce de point de bascule où il y a une forme d'effondrement en cascade.
Bonjour Stéphanie, bienvenue.
Bonjour.
Alors vous croyez ce que vous savez sur les questions climatiques notamment? Et vous le mettez en œuvre dans votre vie?
Je crois rien, je pense. Ouais. Je suis pas dans la croyance. Je pense, je réfléchis, je me renseigne. et je dédie. Donc je suis convaincue.
Alors comment vous agissez dans votre quotidien, vous Stéphanie, par rapport à ces questions liées au climat, à l'environnement, à l'effondrement?
Alors j'agis d'une manière très concrète, puisque avec mon mari on a pris la décision de quitter la ville. On a vendu l'appartement, on achète une maison à la campagne, et on va essayer de mettre la maison le plus possible en autonomie. Voilà, ça fait après, ça fait des années que je prends plus la voiture, que je prends plus l'avion, que je fais attention à ce que je mange. Donc voilà, la démarche était déjà bien engagée.
Pablo Servine.
Oui, c'est une démarche très fréquente, j'irais. Je rencontre beaucoup des gens comme ça. Je pense qu'il y a un véritable mouvement, peut-être un début d'exode urbain. En tout cas, chez la jeunesse, des gens qui arrêtent leur carrière, qui veulent plus être ingénieurs, qui sont dans les grandes écoles et qui quittent tout ça pour retrouver du sens, du lien avec la nature, avec voilà. Mais là, on a une démarche fort individuelle, et c'est normal, on est dans une société très individualiste, et c'est les premières choses qu'on peut faire, ce que de manière caricaturale, on appelle le survivalisme, comment on fait son potager, etc. Et c'est une première étape. Je pense qu'on a tous un survivaliste en nous, il faut l'accepter. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller au-delà. Il y a beaucoup de survivalistes, après quelques temps, ils se disent « Bon, ben, comment je fais pour m'organiser? Ça suffira pas juste d'avoir un potager. Comment est-ce qu'on participe au conseil municipal de notre ville? Comment est-ce qu'on anime un quartier? Comment est-ce qu'on refait de la politique ?» C'est la question majeure. Comment on s'organise face à ce qui est impensable, ce qui est complètement fou, ce qui nous arrive? Et donc, il faut penser radicalement les choses. Il y a une rupture massive de repenser tout. Pour repenser tout.
Guillemette Audicino.
Oui, parce qu'en fait, quand vous faites la différence entre savoir et croire, et la difficulté pour les gens de prendre vraiment conscience, c'est est-ce qu'ils ne sont pas encore bercés, encore continuellement bercés, et c'est peut-être ça qui est en train de s'effondrer, ils ne veulent pas le reconnaître, par la notion du progrès. Est-ce qu'il faut. Enfin, on a tous été élevés là-dedans, le capitalisme, le libéralisme, qu'il soit néo-néo-néo-héro-néo, néolibéral, mais on nous a tous fait croire au progrès. Est-ce que c'est dur d'arrêter d'y croire, en fait, à ça?
Mais bien sûr, c'est extrêmement difficile. En fait, les psychologues, ça fait 60 ans que les psychologues savent, enfin, ils ont montré que l'être humain, il est vraiment très spécial. Il préfère renoncer aux faits que ces histoires qu'il se raconte. C'est tout ce que dit Cyril dans son dernier livre, ce que dit Harari dans Sapiens. On est des animaux d'histoire et de récits. Et alors, dans croire, effectivement, il y a des faits scientifiques. Il y a eu des effondrements qui ont eu lieu, qui sont en train d'avoir lieu. Je pense aux populations d'oiseaux, etc. Enfin, bref. Et il y a par contre, dans le mot effondrement, il y a quelque chose de l'ordre du futur et du récit. Alors, c'est pas encore scientifique, parce que la science n'a pas les moyens de montrer que ça va avoir lieu avec certitude. Et donc, il y a besoin d'aller dans le champ de l'imagination. Quel futur, quel horizon on a pour nos enfants, etc. Et là, ça fait appel à ce que vous,
oui,
ce que vous dites.
C'est notre
histoire.
La politique.
Quelle est l'histoire, ouais. Quelle est la mythologie de notre civilisation? Le progrès continu, linéaire, avec un horizon d'abondance, etc. Renoncer à ça, mais c'est d'une violence extrême.
Merci beaucoup Stéphanie d'être intervenue. Bonjour Amélie, bienvenue.
Bonjour.
Vous habitez en Nouvelle-Aquitaine, vous avez deux enfants et vous êtes en fait une transitionneuse, c'est ça? Je ne sais pas si ça se dit, je ne sais pas si c'est français. Expliquez-nous un petit peu, vous êtes engagée dans la voie de la transition écologique de façon un peu radicale.
Ouais, radical, je sais pas, mais en tout cas, alors effectivement, moi, en fait, j'ai fait le choix depuis un petit bout de temps quand même, hein, depuis 2012, en fait, de me questionner sur quel était en fait l'impact de mes choix au quotidien, grâce notamment voilà à la rencontre d'agriculteurs et de me questionner qu'est-ce que j'ai dans mon assiette. Donc voilà, chemin faisant, rencontre, et pas juste une démarche individuelle par rapport à Stéphanie, je crois, qui témoignait un petit peu avant moi, dans mes choix radicaux, je ne pense pas, en tout cas, qui me permet moi d'être en cohérence avec mon corps et mon cœur. J'ai quitté la ville pour vivre, mais par contre j'ai gardé mon emploi à la ville. Et voilà, donc effectivement dans mon mode de vie, j'ai auto-construit ma maison avec un chantier participatif toujours dans le collectif. Moi, c'est le collectif vraiment qui m'anime. Sans un collectif, on peut rapidement, effectivement, tomber dans les pensées un peu négatives de ce que peut être l'effondrement, de à quoi je vais devoir arrêter. Et en fait, ce collectif, vraiment, il me nourrit. Et donc,
Amélie, c'est juste que vous nous avez dit hors antenne que votre frigo est à l'arrêt en hiver, que les équipements électroménagers sont réduits au strict minimum, pas de lave-vaisselle, de lave-linge, de télévision, de sèche-cheveux, ni de grille-pain.
Ouais. C'est ça. Exactement. Mais en fait, je suis dans un habitat qui répond en fait à mes besoins primaires, à savoir me loger, me nourrir et me chauffer. Voilà. Donc effectivement, quand on se questionne vraiment sur l'impact de nos choix sur l'homme et la nature, il y a des éléments du progrès où en fait, on n'en a pas besoin en vrai.
De façon plus globale, Amélie, vous êtes membre d'un collectif qui agit dans le but de favoriser des initiatives de finances solidaires. Hein.
À titre là où j'habite, je suis membre d'un collectif d'habitants qui met en place en fait trouver sa place en fait dans la politique locale je suis membre actif sur différents projets, sur l'épicerie coopérative, sur développer la monnaie locale sur mon territoire et vraiment favoriser et donner l'information en fait. Je pense que c'est vraiment ce manque d'information et la rencontre entre les gens qui fait que on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas se dire bah oui je vais faire ce pas de côté. En fait, ce pas de côté, il peut quand même être chouette et hyper confortable. C'est dans ce groupe là sur le territoire dans lequel je.
Et Amélie, je crois savoir que c'est le mouvement cofondé par Cyril Dion, le mouvement Colibri, qui vous a un peu qui vous a permis d'ouvrir les yeux, de changer de vie.
Ouais, exactement. C'est avant tout la rencontre avec des agriculteurs dans une AMAP dans laquelle j'étais à Bègles. Et puis, voilà, de fil en aiguille, des rencontres avec un groupe local Colibri dans lequel j'étais bénévole pendant un petit bout de temps. Et là, ça rassure. Waouh, on n'est plus tout seul, en fait.
Cyril Dion. Cyril Dion.
Et c'est là où les idées fusent, où on trouve des solutions, où on arrive à faire ce pas de côté qui en vrai, quand on me dit je fais des choix radicaux, oui je fais des choix radicaux, mais en même temps si on me prend comme une inconnue dans la rue, je suis pas différente en fait.
Cyril Dion.
Non mais ce qui est super dans le témoignage d'Amélie, c'est qu'on entend un peu tout ce qu'on se disait à l'instant, c'est-à-dire qu'à la fois on a besoin de ne pas être tout seul, c'est-à-dire qu'on en a besoin de recréer des communautés autour de nous. On a besoin de redonner un autre sens au progrès, un autre sens à notre vie, en fait. C'est-à-dire, est-ce que dans ma vie, ce qui est le plus important, c'est gagner plein d'argent pour pouvoir aller au centre commercial le week-end et le dimanche passer mon temps à ranger mes trucs, à passer l'aspirateur, à m'occuper de toutes ces choses que je possède maintenant, etc. Ou est-ce qu'au contraire, le fait de posséder moins, le fait de se recentrer sur des choses plus essentielles, ça nous libère pas du temps, ça nous permet pas de faire des choses qui sont plus importantes pour nous, de passer plus de temps avec ceux qu'on aime, de lire de la poésie, de réfléchir. Mais oui, tout ça est profondément important. Et parallèlement à ça, on voit bien que cette démarche-là, qui est fondamentale parce qu'elle nous nourrit intérieurement, parce qu'elle donne, elle crée un autre récit, une autre conversation de l'avenir, elle n'est pas suffisante au sens où elle a besoin de se traduire ensuite politiquement. Donc c'est pour ça que je trouve ça génial qu'ils soient impliqués dans leur commune. Et politiquement, plus largement, en créant des rapports de force qui nous permettent de réorienter cette société, en fait, qui malgré tout continue à aller très vite dans l'autre sens.
Merci beaucoup Amélie d'avoir témoigné ce matin. Bonjour Maxime Ingrand.
Bonjour.
Vous êtes opérateur du son à France Inter et membre du groupe musical Lost in Kiev.
C'est ça, oui.
Pourquoi adhérez-vous à la théorie de l'effondrement? On a eu beaucoup de conversations dans les couloirs. Et surtout, par quelle phase êtes-vous passé dans cette prise de conscience?
Je dirais qu'il y a vraiment eu plusieurs phases. Ça a commencé peut-être au moins 10 ans par juste le rapport à l'écologie, par des films, des documentaires, etc. Je pense notamment à Home de Yann Arthus Bertrand qui a déjà 10 ans, quelque chose comme ça. Et il y a eu le film Demain aussi, ça a été un certain déclic, même si on pourrait dire certaines choses dessus. Même vous-même, vous revenez dessus dans un petit manuel de résistance contemporaine, notamment sur les énergies renouvelables, etc. Mais je dirais qu'il y a eu différentes phases comme ça, jusqu'à voir toutes ces théories sur l'effondrement, la collapsologie, etc. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans toutes ces choses un peu anxiogènes, quand même, faut le dire, c'est cette façon de voir le monde avec avec toutes les crises dans leur interconnectivité entre elles, c'est-à-dire que je me suis retrouvé d'un coup à aller sur des sujets qui m'intéressaient pas du tout avant, c'est-à-dire la géopolitique, l'économie, l'écologie, c'est déjà un peu, mais de voir que toutes ces crises sociétales, géopolitiques pouvaient tous être reliées entre elles, et c'est ça, c'est vraiment, je trouve, l'aspect vraiment intéressant de toutes les théories d'effondrement. Et c'est vrai que autour de moi, il y a quelques années, quand j'ai commencé à voir ça, quand on en parlait, quand j'en parlais des gens, je me sentais un peu, tu sais, on se sent un peu seul parce que on te dit t'es un peu négatif, faut voir les choses un peu différemment, etc. Quoi. Et c'est vrai qu'on en parlait, vous en parliez tout à l'heure. Je sens vraiment, j'ai l'impression, en tout cas, au vu des événements naturels qui se passent depuis quelques mois, quelques années, il y a quelque chose qui est en train de se prendre au niveau collectif. Et une chose qui est aussi vraiment intéressante, je pense, c'est que c'est par là, en fait, par l'écologie, que je me suis intéressé aussi au niveau politique. Et c'est un rapport qu'on ne prend pas assez souvent en compte, je trouve, le rapport à l'écologie et la politique.
Est-ce que ça a changé des choses dans votre vie quotidienne, personnelle, Maxime ?
Ah oui, totalement. Pour l'instant, je vis en ville, je travaille ici. Comme on disait, on a du plastique, de la lumière, etc. et tout. Mais
à terme, est-ce que vous envisagez un changement de vie un peu plus radical, un peu à l'image d'Amélie ?
Potentiellement, oui, c'est quelque chose que je prends vraiment potentiellement en compte, ouais. Mais c'est un peu compliqué des fois, parce qu'on se dit que juste le fait de vivre en France, déjà, peu importe ce qu'on fait, on est déjà en déficit par rapport à la planète, de par notre système productiviste, etc. Et en fait, c'est là où j'aurais une question, surtout pour Pablo Servigne et Cyril Dion, sur le rapport politique et écologique. Est-ce que c'est vraiment compatible avec les politiques actuelles ? C'est-à-dire que on sait que, l'écologie dans un contexte d'effondrement, ça veut dire que l'espèce humaine doit faire face à la prédation qu'elle a sur l'énergie. On sait que l'énergie c'est étroitement lié à l'économie, au PIB, que tout ça c'est lié, quoi. Donc en fait, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait un mouvement politique qui arrive devant tout le monde qui dise on va réduire votre niveau de vie. Ça, c'est pas
on
du
va
tout.
S'autodétruire, c'est pas fédérateur. Mais oui, c'est ça l'alternative incontournable. C'est-à-dire si on continue sur notre trajectoire, on extrait des énergies fossiles, on les brûle, on détruit tout, on saccage tout. On va vers un effondrement dramatique de la biodiversité de notre espèce, peut-être. Enfin, ça peut être fou. Si on décide d'arrêter les bêtises, on laisse les énergies fossiles dans les sous-sols, mais les majors de pétrole, les grandes entreprises font faillite, la bourse s'effondre, en fait, et le PIB s'effondre. Sans énergie, il n'y a pas de croissance. Et donc, on bousille, on auto-détruit notre civilisation pour pouvoir avoir une chance de survivre au-delà de cette civilisation. C'est pour ça qu'il y a des effondrements que l'on souhaite, et il y a des effondrements que l'on ne souhaite pas. C'est important de faire de chacun fasse sa distinction. Et donc, il y a des stratégies et des alliances à faire. C'est ça la question politique maintenant.
Allez, Pablo Servigne et Cyril Dion attendent toutes vos questions sur le climat et sur l'effondrement au 01 45 24 7000 et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse.
J'aime bien.
Malik Judy interprété Belle Sueur.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebi.
10h52, nous attendons toutes vos questions sur le climat et sur l'effondrement. Cyril Dion et Pablo Servigne vous attendent au 01 45 24 7000. Pablo Servigne, une tonne de questions qui vont dans le même sens. Alors c'est pour quand cet effondrement? C'est pour 2020, 2030, 2050
S'il vous plaît, un calendrier.
On aimerait prendre nos dispositions.
Et certains n'y croient plus parce que ça fait un demi-siècle qu'on annonce la catastrophe.
Là. Ah non, mais il y a un demi-siècle, ils disaient que ça serait dans un demi-siècle.
C'est ouais,
ça
alors, le c'est le pour quand, plus sérieusement?
Alors là, on peut, la science n'a pas les moyens de dater précisément le futur, c'est impossible. Donc il y a une incertitude radicale. On peut, alors là, c'est un peu au doigt mouillé. Yves Cochet est très bon pour donner des dates. Personnellement, là, c'est mon intuition. Des chocs majeurs dans nos sociétés avec des possibilités de déstabilisation. Massive avant 2022-2023, même peut-être cette année, hein, s'il y a une crise financière cette année qu'on annonce plus grave que celle de 2007-2008, ça peut faire mal sur fond de gilets jaunes avec toutes les marches climat, avec toute cette tension. Ça peut faire très mal et d'ici 2030, je pense que notre monde aura complètement changé.
De toute façon, ça commence déjà avec la vaste extinction des espèces qu'on constate notamment en Nouvelle-Zélande, avec la disparition d'espèces d'oiseaux qui ont une conséquence absolument terrible sur la biodiversité.
Alors pour l'instant, le plus grave, c'est pas les espèces, même si c'est très grave, parce qu'elles reviennent pas, ce sont les populations. Les populations d'oiseaux, d'insectes, dans la faune du sol... Et les mammifères, les grands mammifères, donc tout ça annonce, et les abeilles, tout ça annonce, nous sommes interdépendants de toutes ces espèces. C'est ça qui est intéressant, l'écologie scientifique nous a apporté cette science des liens, de l'interdépendance. Si vos voisins qui vous apportent ce qu'on appelle les services écosystémiques, c'est une expression horrible pour dire que tous les êtres vivants en fait recyclent notre air, notre eau, nous apportent de la nourriture, nous apportent tout. C'est vraiment magnifique cette planète et on est en train de tout bousiller. Donc quand vous massacrez vos voisins, vous vous retrouvez tout seul dans un désert et vous crevez la gueule ouverte.
L'exemple de la disparition d'espèces d'oiseaux en Nouvelle-Zélande, bah ça a des conséquences sur les sols, sur le climat, sur la température, sur l'humidité de l'écosystème.
Et ça fait des boucles de rétroaction, c'est-à-dire qu'une espèce qui disparaît modifie l'environnement, ce qui peut accélérer des phénomènes de désertification, par exemple. En fait, ce qu'on a essayé de montrer, ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'interconnecter toutes ces crises, entre guillemets, l'énergie, le climat, la biodiversité, etc., ça permet de se rendre compte qu'il y a des effets dominos, que les crises influencent les autres et peuvent déclencher une crise climatique, enfin des catastrophes climatiques, peuvent empirer dramatiquement la question de la biodiversité, voire créer une crise financière qui crée des crises géopolitiques, sociales, économiques, etc. Et on a du coup des phénomènes, c'est ce qu'on est allé chercher dans la littérature scientifique, sur les réseaux. Les physiciens nous disent que quand on interconnecte des réseaux complexes, ils paraissent résilients, c'est-à-dire qu'ils se prennent des chocs et ils maintiennent leurs fonctions, mais en fait ils se fragilisent derrière. De manière cachée, en fait, et sont soumis beaucoup plus facilement à des effondrements, à des ruptures brutales, à ce qu'ils appellent des catastrophic shifts. Et ça, on l'a au niveau boursier, au niveau de la biodiversité, au niveau politique, etc. On a interconnecté notre monde de telle manière qu'on est devenu, paradoxalement, et c'est ça la clé, très puissant et très vulnérable.
Si je vous comprends bien, nous sommes coincés dans un véhicule de plus en plus fragile. C'est ça, c'est un peu ça.
C'est ça, on a pris la métaphore de la voiture et du coup on l'a travaillé. En fait, on va pas droit vers le mur, il y a pas de mur.
Ce sont des frontières invisibles.
C'est ça, et on est sorti de la route. On est sur le bas-côté, on dévale la pente dans le brouillard, on sait pas où sont les obstacles, mais il y a pas de mur. Et le problème aussi, c'est que le réservoir est presque vide. On a le pied au plancher sur l'accélérateur et on peut pas l'enlever parce que si on l'enlève, eh ben tout le château de cartes financier s'effondre et en plus l'habitacle est de plus en plus fragile. Voilà notre problème. Et on ne peut pas tourner le volant parce qu'on est dans des verrouillages sociotechniques affreux.
Cyril Dion ?
Moi, ce qui me paraît en fait le plus important par rapport à tout ça, parce qu'on finit toujours par se dire, bon bah ok, c'est génial. Enfin,
oui, beaucoup de questions en ce sens. Quelles sont les raisons d'espérer ?
Oui.
Qu'est-ce qu'on fait ?
Non mais...
L'action collective.
La seule façon de répondre à ça, c'est collectivement. Et finalement, moi j'avais un ami qui disait il y a quelques années, le plus grand défi du 21e siècle, c'est pas l'effondrement de la biodiversité, c'est pas le changement climatique, c'est pas la crise économique, c'est notre capacité à construire des organisations qui vont résoudre ou en tout cas répondre à ces problèmes-là. Donc d'une certaine manière, le plus grand enjeu du 21e siècle, c'est l'intelligence collective. C'est comment on se parle, c'est comment on prend des décisions ensemble, c'est comment on arrive à des consensus sur le constat. Et comment ensuite on arrive à des actions communes.
Justement, à propos d'actions communes, que peut-on attendre des jeunes qui défilent partout en Europe contre le réchauffement climatique, depuis l'appel notamment de la jeune activiste suédoise Greta Thunberg ?
Mais en fait, on attend ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on attend que le sujet soit mis sur la table de façon incontournable. Et qu'aujourd'hui, là, on prépare un prochain rassemblement, donc parce que la prochaine grève des jeunes, c'est le 24 mai, c'est juste avant les élections européennes. Donc moi, j'ai rencontré un certain nombre d'entre elles et je leur ai suggéré qu'on se rassemble à Bruxelles et qu'en fait, on rende le truc incontournable. C'est-à-dire qu'on dise, vous êtes un responsable politique aujourd'hui, si vous prenez pas cette question en compte, on vote plus pour vous.
Pablo Servigne.
Mais moi, ce qui m'anime, c'est de faire du sens et du lien, raconter de nouveaux récits. On n'en a pas parlé, mais voir le livre de Cyril Dion et faire du lien.
On l'avait déjà invité pour ça.
On crée un nouveau magazine, un trimestriel, le dernier magazine avant la fin du monde, en 12 numéros, après 3 ans, s'autodétruit. Et on a lancé le financement participatif hier. C'est Yggdrasil, YGG, Drasil, du nom de l'arbre-monde dans la mythologie nordique.
Merci beaucoup Pablo Servigne et Cyril Dion. Pour aller plus loin, on peut lire Petit manuel de résistance contemporaine chez Actes Sud et Comment tout peut s'effondrer au seuil. Merci beaucoup. Merci aux standardistes de France Inter, à la documentation de Radio France et à l'impeccable programmation musicale de Muriel Pérez. Vous vouliez dire une dernière chose, Guillaume?
Je voulais conseiller un documentaire, Ali, de Dominique Marché qui s'appelle Nul homme n'est une Nil. Je trouve que sur le collectif, ça sonne très bien et ça parle du sujet.
Lundi, c'est le second volet de notre émission sur la médecine du bon sens avec le docteur Frédéric Salman et le professeur Michel Joyeux. Nous aborderons notamment des règles simples et préventives à mettre en œuvre pour vivre plus longtemps, mieux manger et cultiver sa bonne humeur. 01 45 24 7000. Merci à Maxime Agrand d'être intervenu dans l'émission et merci à Elisabeth Collet et Pauline Laverdure à la technique ce matin.